Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bernard pour vous présenter cette édition d'Escale. Cette semaine, nous nous intéressons à la lutte contre la désertification et à la résilience des agriculteurs face à la sécheresse. Nous avons parlé avec le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, Ibrahim Tchah, et avec Maria Elena Semedo, directrice générale adjointe à l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO. Le terme désertification désigne la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les activités humaines et les variations climatiques. Contrairement à l'opinion répandue, la désertification n'est pas la transformation de la terre en désert. La désertification se produit du fait de l'extrême vulnérabilité des écosystèmes à la surexploitation et à l'utilisation inappropriée des terres. La Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse est célébrée chaque année le 17 juin pour sensibiliser l'opinion publique à cette question. Pourquoi le 17 juin ? C'est la date à laquelle l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Convention sur la lutte contre la désertification, le seul accord international juridiquement contraignant qui relie l'environnement et le développement à la gestion durable des terres. Dans un message pour cette journée, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, met en garde contre le danger que représente la désertification.
La désertification, la dégradation des terres et la sécheresse présentent un grave danger pour des millions d'habitants de la planète, et en particulier les femmes et les enfants. Il y a 25 ans, 197 parties adoptaient une convention historique visant à mobiliser une action mondiale. Il reste cependant beaucoup à faire. Chaque année, 24 milliards de tonnes de sol fertile se perdent dans le monde. La dégradation des terres arides entraîne dans les pays en développement une réduction du produit national brut de 8% par an. Nous devons de toute urgence inverser ces tendances. Il nous faut protéger la terre, la restaurer et en faire un meilleur usage pour réduire la migration forcée, améliorer la sécurité alimentaire et stimuler la croissance économique. C'est ainsi que nous pourrons faire face à l'urgence climatique mondiale.
Le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, Ibrahim Tchah, a participé au sommet Action Climat le 23 septembre, au début de la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies. Son message aux participants du sommet, l'action climatique se passe essentiellement sur Terre. Je l'ai reçu à ce moment-là dans nos studios. Lors de cet entretien, il explique pourquoi la conservation et la restauration des terres sont l'action climatique la moins chère et la plus efficace et sont des activités qui créent beaucoup d'emplois.
L'action climatique se passe essentiellement sur terre. Il y a bien sûr l'action en mer aussi. Mais nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes des terriens. Et donc notre action, elle se passe sur la conservation des terres. La terre nourricière qui nous alimente, qui nous fournit l'eau que nous consommons, qui nous fournit une bonne partie de l'air que nous respirons. La terre qui permet aux jeunes et aux moins jeunes de produire, de s'épanouir. L'absence de ressources sur le milieu terrestre conduisent à des situations de conflit, de compétition pour l'accès à l'eau et à la terre. Donc le message est très simple, c'est que la conservation des terres, la restauration des terres est la solution la moins chère, la plus efficace aujourd'hui, c'est l'action climatique. Vous savez que jusqu'à 30% des gaz qui sont déjà émis dans l'atmosphère peuvent être recarbonisés dans le sol. Donc il faut sortir le carbone de l'atmosphère pour le remettre dans le sol, parce que le carbone appartient à la terre. Donc avec la restauration des terres, on peut arriver à ça. Mais en même temps, la restauration est une solution qui a des ambitions multiples. Dans ce sens que ça fournit de l'alimentation, ça assure la paix et la sécurité, ça donne le pouvoir aux femmes, aux jeunes, ça réduit l'immigration irrégulière. Donc la restauration des terres est une activité qui crée beaucoup d'emplois.
Au début de ce mois, la conférence de la lutte contre la désertification, la COP14, a eu lieu à New Delhi, en Inde. Avez-vous été satisfait des résultats de cette conférence ?
C'était une très belle COP, certainement une COP charnière, parce qu'on célèbre cette année les 25 ans de l'organisation. Mais notre satisfaction, elle n'est pas seulement de réunir des gens. C'est vrai qu'on a eu jusqu'à 9000 personnes qui ont été enregistrées sur cette COP, 197 parties. Mais notre satisfaction se manifeste sur le terrain. Quelles sont les actions que l'on peut mener ? Comment on peut traduire les verbes en actions ? Beaucoup de décisions ont été prises à cette COP. Mais ce que nous souhaitons, c'est que le monde s'ouvre maintenant vers l'action à grande échelle pour la restauration des espaces. Nous perdons toujours jusqu'à 23 hectares de terre par minute. Et ça, ce n'est pas acceptable parce que ce que cela veut dire, c'est qu'avec une population croissante, nous n'arriverons peut-être pas à satisfaire à tous les besoins alimentaires dans le monde. Et c'est certainement une situation qui deviendra de plus en plus difficile pour certains pays. Donc nous, ce que nous recommandons, c'est de traduire les paroles, les décisions en actes concrets sur le terrain. Nous voyons aujourd'hui que dans des régions comme l'Afrique, il y a des initiatives de grande échelle, comme la Grande Muraille Verte, qui s'étend sur 8000 km entre l'Atlantique et la mer Rouge. Nous voyons qu'en Amérique latine, il y a une initiative qui s'appelle l'initiative 2020, qui vise également à restaurer les terres. De même, au Pakistan, le Premier ministre annonce ce qu'il appelle le Billion Tree Tsunami, qui est vraiment des termes très forts. L'Inde fait la même chose, la Chine, la Mongolie. Il y a plein d'initiatives aujourd'hui au niveau individuel. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait une coalition au niveau mondial, au niveau politique, créer une plateforme politique pour que l'action climatique, l'action pour la conservation de la biodiversité, se manifeste par la restauration des terres. Transformer des terres dégradées en des terres productives. Transformer des zones arides en des zones beaucoup plus vertes. Conserver les petits points d'eau, les zones humides qui sont parfois dans des milieux arides, qui constituent véritablement des trésors biologiques dans des milieux où il n'y a pas d'autres opportunités pour les populations.
Et comment peut-on, selon vous, mobiliser l'opinion publique internationale sur cette question de la restauration des terres dégradées et sur la réduction de la dégradation des terres?
Si on commençait déjà par les leaders politiques, imaginons les 60 leaders qui étaient là pour l'action climatique, s'ils comprennent tous que la meilleure action climatique est une action de conservation des terres. Si on commençait par les jeunes qui aujourd'hui manifestent à juste titre, se souciant de leur avenir, mais manifestant cela en forme de 2 degrés, 3 degrés. Mais les 2 degrés, 3 degrés, ils se manifesteront par une réduction de la production alimentaire ou par des pertes des ressources en eau ou des pertes par rapport à la santé humaine. Donc la mobilisation, elle se fera lorsque le monde comprendra que les problèmes de changement climatique, le problème de la planète, c'est en gros la dégradation du milieu naturel. Parce que c'est la nature qui est la fondation, c'est la nature qui est le portefeuille des personnes les plus pauvres. Ils n'ont pas de compte bancaire, ils ne sont pas dans le marché fictif international. Ce qu'ils ont, c'est ce qu'ils peuvent produire quotidiennement pour leur nourriture et pour satisfaire aux besoins d'une population croissante.
Selon Ibrahim Chow, le secteur privé a un rôle crucial à jouer aux côtés des Nations Unies pour lutter contre la désertification en conservant et restaurant les terres. Il prend pour exemple des succès de conservation et de restauration des terres au Burkina Faso et au Niger.
Plein d'exemples qui sont à succès. Je vous donne peut-être l'exemple le moins évident pour vous. Vous savez que le Burkina Faso est l'un des pays les plus pauvres au monde. C'est une population qui vraiment survit dans un pays enclavé, très chaud, avec très peu de ressources naturelles. Ça fait bientôt 40 ans que les Burkinabés ont commencé un grand mouvement de lutte contre la désertification. Aujourd'hui, dans la province de Yatenga, au Burkina Faso, malgré le fait que la population humaine a quadruplé, il y a plus d'arbres au Yatenga cette année qu'il y en avait à l'indépendance. Et ça, c'est un travail énorme de gens qui ont travaillé avec la houe et la daba, mètre carré par mètre carré, pour restaurer leur milieu naturel. Des exemples comme ça font légion, mais ils ne sont pas connus. On n'en parle pas, on parle beaucoup plus. On est beaucoup plus à même de parler du terrorisme et des attaques des institutions que des structures terroristes sont en train de perpétuer, comme pour faire leur publicité. Mais on ne parle pas souvent des efforts incommensurables qui sont faits par les populations pour répondre à leurs besoins et nourrir leur population. Même chose au Niger. Je peux vous amener dans la région de Zender, dans le sud-est du Niger, où des efforts sont faits par des paysans, avec très peu d'appui d'ONG, pour restaurer le milieu naturel et créer des conditions de production pour... Je peux vous parler de l'Éthiopie, je peux vous parler du Sénégal. Les exemples sont légion seulement en Afrique, pour ne parler que du continent africain. Mais on retrouve des situations similaires au Pérou, en Chine, en Inde et dans d'autres régions du monde. Mais on a cette sensation de parler du sensationnel. Et ça, c'est un travail énorme qui ne fait pas surface parce que c'est pas newsworthy, comme on dit. Donc, il va falloir qu'on crée une opportunité pour que le monde comprenne que c'est possible et que ça inspire d'autres personnes pour faire la même chose.
Quel rôle peut jouer le secteur privé aux côtés des Nations Unies pour lutter contre la désertification?
Alors ça, c'est une question extrêmement importante. Merci de l'avoir posée. Le secteur privé a toujours joué un rôle sur les sols. Mais le secteur privé a joué un rôle d'extraction minière, d'extraction pour l'agriculture. On vient dans une zone fertile, on déforeste, on plante, on extrait, et quand la terre se fatigue, on va vers une autre parcelle, on continue une espèce de croisade contre le milieu naturel. Ce que nous recommandons aujourd'hui, ce que nous voyons maintenant, c'est le même secteur privé qui dit « ça, c'est pas durable. Nous voulons avoir des investissements à long terme. Nous voulons sécuriser les investissements parce qu'à chaque fois que nous exploitons une parcelle, nous investissons beaucoup sur la technologie et sur les ressources. Donc nous voulons avoir des activités qui vont nous permettre de perpétuer notre opération sur la même unité de surface. Donc c'est ça la lutte contre la désertification. C'est de réduire l'expansion des territoires agricoles, c'est d'intensifier la production autant que possible, mais en tout cas c'est de minimiser l'empreinte humaine sur le milieu naturel. Bien sûr, ça veut dire réduire la déforestation, mais ça veut dire aussi reconstituer les milieux naturels qui sont déjà dégradés pour les rendre encore productifs. Les études économiques qui ont été faites ont prouvé que chaque dollar investi sur la restauration des terres rapporte entre 5 et 30 dollars en ressources. Donc c'est du business qui est profitable. C'est pas philanthropique. Donc ça peut se manifester sous forme d'activités agricoles, plantation de thé, ça peut se manifester sous forme d'activités touristiques avec des zones de conservation de la faune qui sont des zones touristiques qui rapportent de l'argent. Tout ça, c'est de la conservation. Ou ça peut être récupéré d'anciennes zones minières qui ont été, dont les mines ont dégradé le milieu naturel. On reconstitue ce milieu naturel et on en fait des zones de production de nouveau. Ou alors on en fait des zones de récréation. Et ceci a déjà été prouvé dans beaucoup de pays, aussi bien du nord que du sud. Donc il y a des millions d'hectares qui sont aujourd'hui dégradés par l'activité humaine que l'on peut remettre en ordre, pour ainsi dire.
En Afrique, les secteurs de l'alimentation et de l'agriculture comptent parmi les plus vulnérables face aux répercussions négatives du changement climatique. La FAO appelle à renforcer la résilience des agriculteurs africains. Au micro de Christina Silvero, Maria Elena Semedo, directrice générale adjointe à la FAO, explique les changements qui affectent le continent africain et comment l'agriculture peut s'adapter.
C'est un continent qui fait face à des effets du changement climatique. Soit on a des sécheresses ou on a aussi des éléments de la variabilité du climat. Si avant on avait des périodes de sécheresse qui étaient plus distantes, maintenant ils sont plus courts. Si avant c'était 7 ans, 8 ans, maintenant on parle de 2 ans et demi. Ce qu'il faut, c'est que tous ces effets du changement climatique ont besoin qu'on cherche des solutions et des solutions plus résilientes au climat. La résilience, c'est la capacité des personnes de faire face aux chocs climatiques. C'est la capacité de prévoir qu'on va avoir soit une sécheresse, soit on va avoir des inondations. On ne peut pas les empêcher, mais on peut savoir qu'ils vont arriver. C'est la possibilité de pouvoir surmonter à travers des solutions. Alors, je m'explique. On a la prévision, on sait qu'il y a une sécheresse qui vient. Alors, on peut avoir des semences qui sont des semences à cycle plus court, des semences qui sont plus tolérantes à la sécheresse. Et quand la sécheresse finit, on a une population qui est préparée pour revenir à la situation normale. Et c'est là où on parle de la résilience.
Vous avez loué la créativité des petits agriculteurs africains et vous avez lancé un appel pour qu'on leur apporte plus d'appui. Ça se traduit comment?
Les premiers innovateurs dans l'agriculture, c'est les paysans. Depuis des années, ils ont su s'adapter, mais on voit que l'amplitude de l'impact nous amène à avoir des solutions où la science et l'innovation s'ajoutent. Avec le changement climatique, on a plus en plus de nouvelles maladies des plantes et des animaux qui étaient éradiquées, qui reviennent. Par exemple, la chenille légionnaire. La FAO, une application où le paysan, il peut faire une photo. Avec la photo, il sait s'il y a la chenille légionnaire ou pas. S'il ajoute un drone, il peut avoir une idée de l'extension, comment son champ est affecté ou pas. Et s'il envoie, par exemple, la photo à la FAO, on lui dit ce qu'il faut faire. Alors, les petits paysans, ils n'ont pas cette capacité d'investissement.
Voilà la fin d'Escale sur la lutte contre la désertification avec Ibrahim Tchao et Maria Elena Semedo, un magazine conçu, produit et présenté par Jérôme Bernard. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet et via les médias sociaux nos magazines hebdomadaires mais aussi le journal quotidien de l'UINFO. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.